En France, les menaces sur la liberté d'informer nous préoccupent.
L'autre soir, j'allume la télé comme un idiot. Pas de bol, c'était l'heure des infos.
À Vincent Bolloré, oui, je lui demanderai de rétablir le vrai journalisme.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Burns possède tous les médias. Il faut que je dénonce ça avant qu'il soit trop tard.
Ah, vous les aimez pas, les journalistes.
Welcome to the world of the media.
Chaque jour, les journalistes nous informent, décryptent l'actualité et détricotent le vrai du faux.
Mais en coulisses, la profession trébuche et se heurte à de nombreux défis.
Le journalisme est un métier passion. Que se cache-t-il derrière cette formule attrayante?
À l'heure des réseaux sociaux et des fake news, comment s'informer de manière fiable?
Que faire quand la loi ne suffit plus à protéger ceux qui garantissent notre liberté de penser?
Entre pression, menaces et intimidation, comment les journalistes bretons enquêtent-ils?
Les médias indépendants trouvent-ils leur place dans un milieu médiatique sous forte pression?
D'habitude, ce sont les journalistes qui posent des questions.
Cette fois, nous sommes allés interroger le système de l'intérieur.
En quête de sens, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de Journalisme de Sciences Po Rennes.
Nous sommes en 2024 et tous les médias français sont détenus par 9 milliardaires. Tous, pas tout à fait.
Un groupe d'irréductibles médias indépendants résiste encore et toujours à la concentration médiatique.
Pour être indépendant, un média doit être détenu par ses salariés, ses lecteurs ou une association. Plus facile à dire qu'à faire. Mais alors, qui sont ces médias indépendants?
Chaque année, le média L'Âge de Fer publie une carte de France de la presse pas pareille. On y retrouve toute la presse écrite qui n'appartient à aucun groupe industriel, financier ou mouvement politique. Les derniers chiffres datent de 2022 et on compte plus de 150 journaux indépendants en France.
Sachant que cette presse écrite ne représente qu'une partie de l'écosystème des médias indépendants. Elle est complétée par plusieurs médias audiovisuels.
Alors, comment peut-on être un média indépendant en France aujourd'hui?
Comment trouver sa place face aux grands groupes médiatiques?
Quelles alternatives pour une information libre?
Et enfin, les médias indépendants arriveront-ils à se pérenniser?
Toutes ces questions, nous avons tenté d'y répondre dans ce dernier épisode de notre série documentaire « Enquête de sens ». Épisode 5, La voix est libre. On ne pouvait pas parler d'indépendance des médias sans évoquer la référence en termes de modèle économique d'indépendance. Julia Cagé, c'est l'économiste qui a travaillé le sujet en profondeur. Nous avons eu l'occasion de la rencontrer lors de son passage à Rennes en octobre dernier, où elle nous a livré son analyse économique de la situation.
Bonjour.
Allez-y. Ouais, Julia.
Ouais.
On va peut-être vous installer toutes les trois dans une loge.
Merci beaucoup.
Face à la concentration capitalistique des médias, un autre modèle de financement est possible. Le concept que propose Julia Cagé, c'est la société de médias à but non lucratif.
Le côté non lucratif, c'est vraiment important. Comme pour l'éducation, vous voulez la sortir de la pure logique du marché. Parce que la pure logique du marché, ça crée une contradiction en fait entre les intérêts des actionnaires, où vous voulez maximiser les dividendes versés aux actionnaires, et puis les intérêts des lecteurs, où vous voulez maximiser la qualité de l'information que vous allez fournir aux citoyens. Et c'est vrai que du coup, sortir déjà les médias de cette logique du marché, ça assainit finalement la production d'informations comme un bien public. Donc l'idée de la société de médias à but non lucratif, c'est vraiment à la fois d'avoir non lucratif, et une gouvernance qui soit une gouvernance beaucoup plus démocratique. Donc à l'époque, ce que je proposais notamment, c'était d'avoir des droits de vote en fait qui baissaient avec la part du capital détenu, de sorte de faire que si vous avez quelques gros actionnaires, ils ont moins de pouvoir actionnarial, et les petits vont vouloir regonfler le pouvoir actionnarial. Donc c'est en fait ce qui égalise en gros les droits de vote des plus petits, des plus gros actionnaires, en donnant en plus des actions aux journalistes et en donnant des actions aux lecteurs. Il y a aucune raison d'égaliser le pourcentage des actions détenues avec le pourcentage des droits de vote détenus. Et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à penser, en fait, découpler le pouvoir capitalistique de la question de la gouvernance.
Mais même si ce modèle idéal n'existe pas encore en France, des alternatives s'en rapprochent. Mediapart fait notamment figure de bon élève, là où Libération et Le Monde sont encore bien loin d'une gouvernance démocratique.
Mediapart, ils ont fait une gouvernance indépendante des fondateurs, avec quelques représentants des journalistes, des personnalités qualifiées, et puis un board qui va s'auto-renouveler. Le contre-exemple total, c'est Libération. Là, il y a un fonds de dotation où on voit que tout le pouvoir est resté entre les mains de Patrick Drahi et de SFR. Ils ont fait un fonds de dotation avec simplement une gouvernance de 3 membres, dont 2 membres étaient des représentants d'SFR, et le troisième était nommé par les 2 premiers. Intermédiaire, le fonds de dotation qui a été mis en place par Xavier Niel au monde, parce qu'à la fois il y a plus de sièges et un tiers des sièges qui sont donnés de droit au pôle d'indépendance, donc il y a quand même un peu plus de pouvoir, de contre-pouvoir pour les salariés et les rédacteurs, mais la majorité reste quand même entre les mains du fondateur, dont Niel, et surtout de ses ayants droit. Donc c'est un modèle que j'ai dénoncé pour ça. C'est moins pire qu'à Libé, mais c'est vraiment pas une gouvernance paritaire qui donne assez de poids au journalisme. Mediapart, c'est un truc qui est quand même beaucoup plus sain et qui garantit mieux l'indépendance du titre et de ses journalistes.
Mediapart, au-delà de son modèle démocratique, c'est un peu la success story du média indépendant en France. Mais à sa création, il y a 15 ans, la réussite était loin d'être assurée. Pour en savoir plus, nous sommes allés prendre l'air marin dans les Côtes d'Armor à la rencontre d'un des fondateurs.
Je m'appelle Laurent Mauduit, j'ai été journaliste depuis plus de 40 ans maintenant, et du coup j'ai participer comme cofondateur à l'aventure de Mediapart. L'histoire de Mediapart, c'est l'histoire d'une double révolution. La révolution de l'indépendance et la révolution technologique. C'est le mariage des deux au même moment.
À l'époque, des milliardaires étendent déjà leur mainmise sur les médias français. En 2006, le journal Le Monde est racheté. À sa direction, plusieurs membres décident de quitter le navire pour fonder leur propre média.
À l'époque, en 2008, quand on se lance, tout le monde nous dit « Mais vous êtes fous, vous n'y arriverez jamais. » Premier pari, on dit et on annonce qu'on va faire un journal avec des enquêtes parfois longues. Et second pari, on veut faire un journal payant. La raison est assez simple, c'est qu'on se dit que quand quelque chose est gratuit, c'est que ça ne vaut rien. Ou alors c'est que c'est le lecteur, la marchandise. Et quand on fait ce choix-là, tout le monde se moque de nous en disant « mais vous n'y arriverez jamais ». Un, l'Internet, ce sont des flux, c'est rapide. Et deux, c'est gratuit. Vous ne ferez jamais payer qui que ce soit sur Internet.
En somme, Mediapart, c'est d'abord l'histoire d'un pari risqué.
Et donc c'est vrai, on ne l'a jamais raconté dans le détail, mais donc on démarre en mars 2008. En mars 2010... au comité de direction de Mediapart, on se parle entre nous, sans raconter le détail à l'équipe, on se dit on a encore une trésorerie pour payer les salaires jusqu'en septembre prochain. Et on commence même à l'époque à discuter entre nous, membres de la direction, on se dit on va faire un plan d'austérité en commençant par les membres de la direction. C'est-à-dire nous tous, on va baisser nos salaires.
Mais en juin 2010, la première enquête de Mediapart voit le jour et c'est un franc succès.
Difficile d'y voir clair dans ce dossier, cette affaire Liliane Bettencourt.
Mediapart publie des extraits d'enregistrement révélant des dons d'argent, des comptes illégaux en Suisse.
Liliane Bettencourt, une femme sous influence ou une très généreuse donatrice?
Et là, toute l'économie du système change. D'un seul coup, les abonnements décollent.
On parle ici de 2000 à 3000 abonnements par jour pendant plusieurs mois, mais la partie est loin d'être gagnée.
Alors ensuite, il y a eu une sorte de scepticisme de la part des lecteurs ou de ceux qui nous observaient. Ils nous disaient « Oui, d'accord, vous avez gagné une première manche avec l'affaire Bettencourt, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu anti-sarkoziste quand même ? » Et ce qui a vraiment crédibilisé Mediapart, ça a été après l'alternance de 2012.
Quelques mois après l'élection de François Hollande, deuxième coup de maître, le média sort une nouvelle enquête concernant cette fois le ministre des Finances de l'époque, Jérôme Cahuzac.
Le ministre du Budget veut défendre son honneur. Hier soir, le site Mediapart l'accusait, lui qui est chargé de traquer l'évasion fiscale, d'avoir eu un compte bancaire non déclaré en Suisse jusqu'en 2010.
Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Beaucoup de gens se sont dit, mais ils ont traité le pouvoir de François Hollande et de ses ministres, comme ils ont traité Sarkozy. Et donc il y a eu une sorte de, comment dire, une sorte de notre part de sérénité, parce qu'on dit, ça y est, on est en train de gagner notre pari. L'intuition qu'on a, c'est que la création de Mediapart fera un choc démocratique et qu'on aura tout de suite 10 000 abonnés et qu'ensuite ce sera dur pour progresser. Et en fait, ça s'est pas passé comme on le pensait. On n'a pas eu les 10 000 abonnés. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. Il a fallu qu'on fasse nos preuves. Ce qui a fait le succès de Mediapart, ça a été son succès éditorial.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez La Voix est libre, un épisode de la série documentaire En quête de sens.
Mais à qui appartient Mediapart ? À sa création, ses fondateurs, quelques investisseurs et la société des amis de Mediapart possèdent le capital. Avec une règle à ne pas transgresser, que les fondateurs et la société des amis détiennent toujours plus de 50% du capital.
Le modèle, c'est l'achat des articles que l'on produit. Pas de publicité, aucune, et pas de subvention. Seulement les abonnements. Il faut que les journalistes n'aient aucune pression, qu'ils ne soient, je dis ça avec moquerie, qu'ils ne soient prisonniers que de leur propre médiocrité, ça suffit bien assez souvent.
Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter.
Et malgré les premières difficultés, c'est un modèle qui marche. Plus de 210 000 abonnés en 2022 et un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros.
Le reste de la presse nous a parfois regardé un peu comme un petit laboratoire. Au début, ils se sont dit, ils sont fous furieux. Et puis, ils se sont rendus compte que, en fait, que le succès de Mediapart devait les faire réfléchir. Au plan économique, 2008, 2009, 2010, on bouffe notre capital. Et en fait, au bout de 4 ans, on est arrivé à l'équilibre. Et ensuite, on est devenu bénéficiaire.
Mais la quête d'indépendance de Mediapart ne s'est pas arrêtée là.
Dans le bordel joyeux de la création du journal, on a fait ça en se dépêchant. Ça ne nous a pas satisfait. En fait, c'était le capital d'une société anonyme classique. Or, nous, notre rêve, c'était de faire un journal indépendant de manière pérenne. On s'est dit, il faut faire une invention juridique de sorte que le capital de la société soit protégé.
Ce rêve, comme l'explique Laurent Mauduit, s'est concrétisé en 2019. Et oui, Mediapart s'est laissé racheter. Mais pas par un milliardaire, par une structure à but non lucratif. Il s'agit du Fonds pour une presse libre, ou de son petit surnom, le FPL, un fonds de dotation créé par les cofondateurs et salariés de Mediapart. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? Nous avons posé la question à Charlotte Clavreul, directrice exécutive du Fonds pour une presse libre.
Le capital de Mediapart est devenu totalement indépendant, ça veut dire qu'il est non cessible, non spéculable, et Mediapart ne pourra jamais être racheté.
Au-delà de figer le capital de Mediapart, le FPL s'est doté d'une seconde mission. Soutenir financièrement des médias indépendants grâce au financement participatif.
Ça peut être aussi bien des médias qu'on appelle les pure players, ça peut être des services de presse en ligne, les SPEL, comme des médias print. Et aussi bien des médias d'information locale que des médias qui couvrent l'information nationale ou même l'information internationale.
Depuis 2019, le fonctionnement du fonds est bien rodé. Le FPL lance chaque année une campagne de financement participatif. Les dons sont ensuite alloués aux médias indépendants qui ont candidaté auprès de la structure. Fin 2023, le FPL a récolté pas moins de 168 000 euros en 4 semaines qui seront redistribués en 2024.
On n'a pas envie d'avoir cette action de saupoudrage. Nous, elle est donnée 2 000 euros à un média, 3 000, 10 000. Ça n'a pas vraiment de sens dans le sens où ce serait juste un peu comme un pansement qu'on met. Mais nous, on a vraiment envie de débloquer des sommes beaucoup plus importantes. On a vraiment cette volonté d'aider les médias à trouver leur propre modèle économique. Et c'est surtout les aider dans un objectif de pérennité, de viabilité de modèle économique du média. On essaye en tout cas de répartir nos aides financières efficacement et pour qu'elles aient le plus d'impact possible.
À son échelle, le FPL a aidé financièrement plusieurs médias indépendants et le compte augmente chaque année. 3 médias en 2020, 4 en 2021, 7 en 2022 et un record de 9 médias en 2023. Chaque année, Mediapart verse 100 000 euros de ses dividendes au Fonds pour une presse libre pour assurer ses frais de fonctionnement. De cette manière, l'entièreté des dons récoltés est versée aux médias indépendants. Mais attention, pas le droit à l'erreur pour les bénéficiaires. Le FPL est reconnu comme organisme d'intérêt public, ce qui veut aussi dire que les fonds alloués sont contrôlés.
On est obligé de prouver que l'argent qui est utilisé pour soutenir ces médias indépendants, répondent à la mission, à l'objet social du fonds. Donc les médias à qui on verse, je donne un exemple, 15 000 euros pour réaliser une enquête au long cours, et ben ces médias sont obligés de l'utiliser pour le projet qu'ils nous ont soumis. Et en retour, à la fin du projet, ils doivent nous rendre un compte-rendu d'exécution du projet et un compte-rendu financier également, puisque nous, ce sont des documents obligatoires, c'est en cas de contrôle de l'administration française.
En plus des aides directes, le FPL propose aussi des avances de trésorerie, avec des sommes qui avoisinent les 50 000 euros. Une aubaine pour les médias qui ne disposent pas de fonds propres.
Pendant 2 ans, le média ne va pas être obligé de rembourser le fonds pour une presse libre, et que le remboursement va intervenir au bout de la 3e année. Ça va lui laisser le temps de mettre en place son projet. Et pour nous, c'est un cercle vertueux, parce que alors déjà, on verse la somme tout de suite, mais après, ils ont le temps, en fait, de mettre en place son projet. Mais c'est surtout que cet argent, à terme, revient au fonds pour une presse libre. Et cet argent, du coup, peut être réutilisé pour financer de nouveaux projets de presse indépendante.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez La Voix est libre, un épisode de la série documentaire En quête de sens.
Parmi les médias indépendants que le FPL soutient, l'un se situe en terre armoricaine, c'est Splan. Ce nom ne vous évoque peut-être rien, mais ce petit nouveau se fraye tranquillement un chemin dans le monde de l'enquête.
Dévoilé ce lundi par nos confrères de Splan.
Un marché mal régulé, c'est ce que dénonce l'enquête du média breton Splan.
L'association de journalistes Splan a publié une enquête.
Depuis sa première enquête, publiée en 2021, le média a gagné en notoriété et fort heureusement, les présentateurs savent désormais prononcer son nom correctement.
Notre objectif est de travailler sur des sujets sensibles, d'éclairer des zones d'ombre en Bretagne pour raconter l'envers de la carte postale.
Lui, c'est Sylvain Ernaud, cofondateur de Splan. Il nous a rencontrés le temps d'un thé pour nous raconter le parcours de ce nouveau média qui n'a pas peur de s'attaquer aux sujets qui fâchent.
J'ai pris nom, j'espère que ça allait.
Oui, très bien, parfait.
Le point de départ de Splan, c'est... C'est une initiative d'alerte sur la liberté de la presse en Bretagne portant sur les questions agroalimentaires adressées aux élus pour leur dire qu'on a des difficultés, qu'il y a une omerta et qu'il faut prendre des mesures pour que la situation ne se dégrade pas davantage.
À l'été 2020, le média se monte donc sous la forme d'une ONG d'enquête journalistique. Ce modèle, identique à celui du média Disclose, lui permet alors de collecter des dons pour financer ses enquêtes.
En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une place pour l'enquête journalistique indépendante des pouvoirs financiers, des pouvoirs politiques dans notre région, parce que c'est un genre qui est peu exploré. C'est après par la preuve aussi qu'on fait notre trou. Et ensuite, c'est un peu un crash test à chaque enquête. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais disons, on sait qu'on est attendu au tournant, donc chaque enquête, c'est une prise de risque. De par les documents qu'on va mettre en avant, parfois les révélations qu'on va effectuer.
Pour se lancer, Splan a tout de même reçu quelques coups de pouce financiers. 50 000 euros du fonds émergence du ministère de la Culture, 15 000 euros de la REDADEG, puisque c'est un média bilingue breton, et 15 000 euros du FPL. Maintenant, le média se finance presque exclusivement par les dons de particuliers.
Donc c'est pas un modèle de type Mediapart, c'est plutôt comme Street Press ou Reporter, et ça fonctionne pour eux. Celui de rappeler systématiquement que nous dépendons des dons, de la générosité de nos lecteurs. Donc il faut avoir des amis riches et puis leur demander de faire un don pour soi si on veut, par exemple, ça peut fonctionner. Chacun s'entend comme il veut dans la famille.
Le média se caractérise aussi par un engagement fort, celui de l'accès gratuit aux enquêtes.
On pense que c'est ce qui va nous permettre de toucher le plus de monde possible. Et nous, c'est vraiment l'enjeu. On ne produit pas de l'information pour une caste. C'est, je dirais, très spécifique à l'enquête et ce n'est pas quelque chose à dupliquer. Ça ne vaut pas pour tout, évidemment, les médias. Parce qu'il faut en même temps faire comprendre que l'information a une valeur et donc un coût.
Pour une enquête comme celle sur l'accès aux terres agricoles en Bretagne, publiée par Splan en septembre 2023, il faut compter au moins 20 000 euros pour payer à la fois les salaires, la traduction, les illustrations ou encore les frais de déplacement.
Mais en même temps, il faut que cette information elle soit publique. Nous, on milite vraiment sur cette question de l'accès au plus grand nombre.
Maintenir un tel modèle, ça demande beaucoup de travail, notamment pour se construire une base de donateurs réguliers.
Ça signifie avoir une relation assez directe avec ses donateurs, participer à des événements, répondre à des invitations. Mais je pense que se rencontrer, montrer qu'on est des journalistes en chair et en os, on n'est pas dans une tour d'ivoire, on vit comme tout le monde au milieu de la population. Et nous travaillons sur des questions agricoles, on peut dire qu'une partie de la rédaction travaille vraiment et habite à la campagne, dans la ruralité. Nos bureaux, ils sont à Guingamp, c'est 8000 habitants.
Pour ne pas prendre le risque d'être corrompu par un milliardaire breton, le média a mis en place plusieurs garde-fous. Un donateur unique ne peut par exemple pas représenter plus de 10% du budget annuel de l'association.
Et on a un conseil de surveillance qui, lui, a pour activité quasiment unique de vérifier que l'association reste fidèle aux principes qui ont été décidés lors de sa fondation. Donc elle est formée des membres fondateurs. Disons que si on se projette par exemple à 10 ans, l'équipe aura... Ce sera grandement renouvelé et les membres fondateurs ont toujours quasiment un droit de veto pour dire là, c'est pas comme ça qu'on avait vu l'association, c'est pas comme ça qu'on avait vu le projet éditorial. Voilà, une fois qu'on a refusé les annonceurs, une fois qu'on a de toute façon écarté l'idée même d'avoir des subventions de collectivités locales, on a déjà éliminé une grande partie des sources de pression, de conflits d'intérêts, de situations impossibles dans lesquelles on pourrait se retrouver. Et on a une vision très, très horizontale, une égalité salariale et une prise de décision au consensus au maximum. En interne, on essaye d'appliquer les principes qu'on défend par exemple dans nos enquêtes. Si on doit dénoncer des pratiques non démocratiques dans une collectivité locale, il faut quand même qu'on soit exemplaire de ce point de vue.
Malgré l'envergure de sa mission, Splan est ambitieux et ça paye. Son budget est en hausse avec une prévision de 140 000 euros pour 2024. Dans le même temps, les partenaires et les sollicitations se multiplient.
On a vraiment pris la pente nord de l'Everest en disant on va faire le genre journalistique le plus difficile, celui qui coûte le plus cher. Et on va se priver de la publicité, on va se priver de l'argent des collectivités locales. Et on n'est pas appuyé par un milliardaire, un grand mécène qui va nous filer du pognon. Par contre, voilà, on sait à peu près faire notre métier et on a confiance dans le fait qu'il y a des gens qui attendent ça.
La presse indépendante, c'est une presse qui apporte de nouveaux regards, qui traite l'information de différentes manières, qui crée des projets très innovants, qui crée de la richesse. C'est pas si compliqué que ça à monter un média indépendant. Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas si compliqué que ça. L'enjeu, en fait, et le grand défi, c'est après de continuer à exister et d'être pérenne.
Comme le souligne Charlotte Clavreul, l'enjeu pour les nouveaux médias indépendants, c'est désormais de survivre.
C'est compliqué à l'heure actuelle pour cet écosystème, alors que cette presse indépendante, elle est quand même lue par des millions de personnes. On ne s'en rend pas compte, mais il y a des médias indépendants locaux dont leur existence dépend vraiment d'abonnés et de lecteurs et qui font face à des grands groupes de presse régionaux.
Fidèle à son rôle d'économiste, Julia Cagé interpelle tout de même sur la place toujours dominante des grands groupes médiatiques aujourd'hui.
Il y a eu des réussites, et je pense que la principale réussite en France, si vous prenez les années récentes, ça va être Mediapart. Mais sauf qu'on voit bien que c'est supplémentaire, c'est complémentaire, mais ça vient pas remplacer, les grands médias de l'audiovisuel privé. Ensuite, il y a toujours la difficulté de rentrer et de s'étendre sur un marché, ce qui fait que les médias existants en place et assez puissants, en fait, ont un avantage qui risque pas de perdre. Donc, je pense qu'il faut aider et favoriser ces nouveaux médias qui se développent. Mais on voit bien que ça vient pas se substituer à la consommation de médias plus traditionnels. Donc, il faut aussi, en fait, imposer de l'indépendance et protéger ces médias traditionnels.
Vous l'avez compris, la vie d'un média indépendant est bien souvent un parcours semé d'embûches. Alors, ces médias ont décidé de la jouer collectif. Dernière initiative en date, les États généraux de la presse indépendante, en novembre dernier, une contre-attaque face aux États généraux de l'information lancés par l'Élysée.
Les aides publiques directes à la presse doivent être fléchées exclusivement vers les médias indépendants.
Limiter le champ des exceptions au secret des sources.
Plus de 50 propositions ont été rédigées pour libérer l'information. Une façon pour ces médias de se faire entendre dans le panorama médiatique français. Et d'ailleurs, pour Laurent Mauduit, l'essor de ces médias indépendants est de bon augure.
Il y a un bouillonnement qui est beaucoup plus fort qu'il y a 8 ans ou 10 ans. L'espoir, c'est que ça se réalise, quoi. C'est qu'il y ait des journaux numériques indépendants qui se créent un peu partout en région, qu'il y ait d'autres journaux plus spécialisés également. Même si l'écosystème de la presse en ce moment est vraiment détestable, dangereux avec l'émergence de cette presse d'extrême droite, on est dans cette période de basculement, donc il faut tenir bon.
C'était Laurine Le Goff et Juliette Pierre-Auberson dans La Voix est libre, le dernier épisode de la série documentaire Enquête de sens, réalisée par les étudiantes et étudiants du master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Les 5 épisodes de cette série sont à retrouver sur le site internet de Canal B.
Dans cet épisode, vous avez pu entendre des extraits du journal télévisé de France 2 et France 3 Bretagne, une intervention de Jérôme Cahuzac devant l'Assemblée nationale en 2012, le tout premier spot publicitaire de Mediapart, Sylvain Ernaud dans une vidéo du Fonds pour une presse libre, ainsi que des extraits de la soirée des états généraux de la presse indépendante.
La musique qui a introduit et conclu cet épisode était Hometown de French 79, vous avez aussi peut-être reconnu On Melancholy Hill de Gorillaz, Machu Picchu de The Strokes et Little Wing de Jimi Hendrix.
Le générique de notre série documentaire était composé de plusieurs extraits. L'émission À l'air libre de Mediapart,
la chanson Les médias mentent de Barricade,
l'émission Complément d'enquête,
le film Illusion perdue,
un épisode des Simpsons,
le journaliste Usul,
une conférence de Donald Trump
et la chanson Way Down in the Hole de Steve Earle. Bonne journée et très bon week-end sur Canal B.